Philippe Garin, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur financier de Corian. Nous sommes avec vous au siège à Paris. Nous avons écouté votre présentation. Vous avez donné les grandes lignes effectivement des derniers mois d'activité du groupe. Un mot pour commencer sur, bien entendu, l'effet du Covid sur la société. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année forcément particulière, de cette année 2020?
Ah bah, ce que je retiens ne sera pas financier, donc c'est peut-être en tant que membre de cette équipe qui s'est battue contre un épisode de Covid particulièrement difficile. Franchement, pendant cette période, les éléments financiers ont été mis de côté. Alors, évidemment, on s'est battu contre des marchés qui étaient incertains, on s'est battu contre des fournisseurs qui étaient plus présents, mais il y a vraiment eu une période pendant laquelle Corian a fait face à traverser une crise extrêmement difficile. C'était une période où moi, je venais tous les jours au travail dans la cellule de crise. Et clairement, il y avait une double crise. Il y avait celle de Corian et puis il y avait la même qui était dans la rue et on a fait front.
Alors, du côté du groupe, il y a toujours, je dirais, une double stratégie à la fois de croissance organique et de croissance externe. Sur la croissance organique, il y a de fins observateurs qui trouvent peut-être qu'elle n'est pas assez forte. Qu'est-ce que vous dites ?
Je suis d'accord avec eux. La croissance organique, c'est très très bien quand elle est plus forte. C'est un petit peu faux, c'est un peu dur ce qu'ils disent, parce qu'on a très fortement progressé. On avait une croissance organique de l'ordre d'un point il y a quelques années. Le dernier trimestre avant la crise, on était sur une tendance de 4%. Et je suis bien convaincu que cette tendance sera atteinte assez rapidement. Je ne vais pas vous faire de promesses pour 2020 parce que c'est extrêmement difficile quand est-ce qu'on va revenir dans un monde un peu plus normal avec une croissance. Mais par définition, la croissance organique, au regard des choix ambulatoires qu'on a fait, au regard des investissements en matière de greenfield qu'on a fait et au regard de la recovery qui va y avoir lieu après la crise en matière de taux d'occupation, va être très forte dans les années qui viennent.
Du côté justement de la tendance que vous observez, en tout cas sur les derniers mois en 2021, est-ce qu'elle vous paraît plus positive ?
Alors, c'est pas encore les derniers mois, c'est les dernières semaines. En effet, on s'aperçoit en Europe, en règle générale, qu'on a enfin des augmentations de TO qui, semaine après semaine, sont dans le bon sens. On n'a pas encore le phénomène, peut-être qu'on ne l'aura pas, du mois de juillet, qui avait été un rebond très très fort. Mais le mois de juillet avait été, l'année dernière, une espèce de fausse fin de crise qui avait généré une ambiance très positive. On ne peut pas dire qu'on vive ça aujourd'hui et on a encore des restrictions dans un certain nombre de maisons, même si avec plus de 85% de vaccination et 0,3% de cas, on peut dire qu'aujourd'hui le Covid n'est plus dans nos maisons. On voit quand même que l'ambiance générale n'est pas encore très favorable pour nous. Et donc, si on observe cette évolution favorable, elle est récente et elle demande à être confirmée.
Autre élément aussi observé, celui des taux d'occupation, il est autour de 85%. Là aussi, il y a des améliorations à essayer d'imaginer.
Alors, on ne va pas se battre sur les prix, parce que ça, on sait très bien que ça n'a pas beaucoup de sens. Non, on a choisi la qualité. On a décidé d'utiliser cette crise qui nous a permis d'avoir le taux d'encadrement qu'on souhaitait avoir, qu'on avait beaucoup de mal à avoir avant, compte tenu des difficultés de recrutement. Donc on a gardé et on s'est occupé pendant cette période-là à renforcer nos équipes, à les former, à leur offrir des formations complémentaires et à mettre en place des systèmes pérennes de formation comme par exemple le CFA qu'on a monté en France. Tous ces éléments-là vont nous permettre d'accueillir ce rebond, cette évolution favorable et c'est par ce biais-là qu'on pense qu'on va remplir nos maisons. Ça mettra un peu de temps. On n'a pas peur du temps que ça va prendre. Tout ce qu'on souhaite, c'est accélérer et garder l'évolution favorable qu'on voit dans nos maisons aujourd'hui.
Alors, on sait que bon, le risque zéro n'existe pas, mais vous avez connu d'autres crises par le passé, mais comme d'autres acteurs de la santé, quelles leçons vous en avez tirées en termes d'organisation, de moyens ?
Alors, comme leçon, ce qu'on a tiré, c'est que ça a été une espèce de révélateur que les choix stratégiques qu'on avait faits étaient les bons, mais qu'il fallait aller plus vite. On était convaincus qu'il fallait aller vers la médicalisation Cette crise a mis en évidence que quand on est un acteur de maison de retraite, il faut avoir un pied dans le médical. C'est absolument évident. Ne serait-ce que parce que les gens qui vont nous rejoindre dans les années qui viennent seront, pour ce qui est des maisons de retraite, de plus en plus fragiles, de plus en plus dépendants. Et donc, on va devoir les aider. Vraiment, cette crise, ça a été un focus sur la qualité, l'accompagnement, la cohésion, la communication avec les familles, qui était probablement un des domaines où on avait à progresser, très clairement, et l'accès aux soins.
Donc, je dirais, comme je disais, tous les acteurs ont des efforts à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la taille, c'est peut-être plus compliqué pour vous, parce que vous avez effectivement aujourd'hui grandi avec cette croissance externe et il faut, au fil des croissances, arriver à gérer tout ça?
Oui, mais on a appris, on a beaucoup appris. Par exemple, pour ce qui est du personnel, nous, la crise de manque de personnel, on l'a connue 3 ou 4 ans avant les autres en Allemagne. La situation a été extrêmement difficile en 2016-2017 en Allemagne et tout ce qui a été mis en place ces 3 dernières années en France avait été déjà expérimenté dans un pays comme l'Allemagne. Donc, évidemment, quand la tâche est plus large, elle peut être vue comme plus compliquée, mais en fait, pas vraiment, puisque on fait beaucoup de travail en équipe avec les différents pays, afin qu'il y ait une espèce de chemin vers l'excellence qui se fasse. On prend le meilleur de chaque pays, et très clairement, cette taille nous donne plutôt des facilités et des moyens qu'une gêne.
Alors, un sujet qui vous est cher, le sujet financier, alors l'augmentation de capital, j'ai regardé ce qui s'était passé sur le cours de bourse. J'avoue, je ne suis pas le cours de Corian tous les jours. Et j'ai vu cette dégringolade. Quel est aujourd'hui, c'est quelques semaines maintenant ou quelques mois après, qu'est-ce qui n'a pas été compris et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux investisseurs sur quoi peut-être ils sont passés à côté? En tout cas, ils vous ont sanctionné à l'époque.
Tout à fait. Ils nous ont sanctionnés. La sanction n'a pas été très, très longue, mais elle a été réelle. Je pense qu'on a très mal communiqué. On était très convaincus. Chaque acquisition qu'on fait se fait à des conditions hors marché et après des relations longues avec le vendeur. Un dossier comme Inicea, c'est 18 mois de boulot. Et c'est un dossier qui a été la condition pour un développement européen, français dans une première étape, puis européen, dans la santé mentale. On l'a vu, c'est exactement ce qu'on a fait depuis. On a acheté Inicea et 4 mois après, on a acheté Ita en Espagne, ce qui nous permet, alors qu'on est parti de pas grand-chose, d'avoir une activité qu'on envisage être de l'ordre de 250 millions d'euros assez rapidement. Cette évolution particulièrement favorable dans un métier dans lequel il y a énormément de demandes n'était possible que par Inicea. En plus, dans une activité qui est relutive, avec des retours sur investissement tout à fait convenables. Par ailleurs, on a un certain nombre de cibles dans les autres pays et en France qui vont compléter ce dispositif. Donc je pense que c'est très difficile quand on a une conviction, mais des incertitudes, parce que tant qu'un deal n'est pas fait, il n'est pas fait. Mais nous savions exactement là où nous voulions aller et je suis très heureux que ce chemin ait été réalisé depuis.
Alors, vous avez aussi expliqué les arbitrages que vous faites, bien sûr, entre l'exploitation dont on a parlé et puis l'immobilier. En résumé, quelle est la stratégie de long terme de Corian?
La stratégie de long terme de Corian a été rendue encore plus possible grâce à l'opération qu'on a fait en fin 2020, qui est d'accueillir en tant qu'investisseur long terme minoritaire dans une de nos foncières, EDF Invest et BNP Cardif, qui sont venus investir 300 millions dans un véhicule d'1 milliard. Ce qui nous conduit d'avoir un excellent financement global de notre immobilier, tout en partageant les risques sur cet immobilier. Ça nous apporte de l'equity, puisque c'est de l'equity, qui nous permet de continuer à investir. Et ça permet de ne plus puiser sur les ressources des opérations pour développer l'immobilier. Donc aujourd'hui, après cette opération, sachant qu'on en fera probablement une par an, nous avons la possibilité d'investir entre 3 et 500 millions par an dans l'immobilier sans dégrader notre levier, et la possibilité de garder deux autres niveaux d'investissement qui sont clés pour nous. La partie, ce qu'on appelle development cost, development capex, qui est grosso modo la rénovation du parc, qui est, vous savez, quand on a 1000 maisons, il y en a toujours une qu'il faut refaire. Donc on a voulu accélérer là-dessus et on accélère beaucoup, notamment en France. Et puis la politique de M&A que nous allons continuer, sur lequel nous allons allouer de l'ordre de 300 millions. Voilà, l'ensemble de ces investissements représentant de l'ordre d'un milliard et étant devenu, compte tenu de nos cash flows qui sont tout à fait satisfaisant, et de cette politique immobilière réaliste et pérenne.
Le mot de la fin sur les perspectives, quelles sont vos priorités aujourd'hui quand on suit ce secteur? Je dirais que c'est un secteur entre guillemets tranquille, il y avait de la visibilité. Aujourd'hui, voilà, force est de constater que c'est plus compliqué. Quelles sont vos priorités?
Alors, c'est plus compliqué. Non, on traverse une crise qui a donné de la disponibilité dans pas mal de maisons, ça c'est sûr. On sait qu'on a la classe des baby-boomers qui arrivent, qui est extrêmement nombreux. Hein. On a ces gens-là arrivent sur le marché d'ici quelques années. Donc, on n'a pas d'inquiétude à moyen terme. L'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est pas être prêt. Parce que ces gens-là, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes habitudes. En plus, on sait qu'ils sont très nombreux. Donc, compte tenu des numerus clausus qu'on a dans les maisons de retraite, ça veut dire qu'on aura dans les maisons de retraite quasiment que des gens très fragiles. Et donc, les autres, comment on va les aider? Nous, c'est pour ça qu'on est allé faire petit-fils. C'est parce qu'on s'est dit qu'il y aura plus en plus d'aide à domicile, des besoins d'aide à domicile. C'est pour ça qu'on a fait AGV. La colocation a du sens puisque c'est une première étape et les gens peuvent avoir envie de commencer à vivre dans un environnement différent en dehors de chez eux, tout en se sentant chez eux, sans aller pour autant en maison de retraite. Non, beaucoup de challenges, beaucoup d'intérêts et un marché en forte croissance.
Merci beaucoup Philippe Garin d'avoir été avec nous.
Merci à vous.